qu'est-ce qu'elle va faire avec la peur?
C'est pas un sujet hors du contexte du champ politique.
Est complètement tombé en miettes.
Quelque chose, à mon avis, a changé.
Elle révélait des inégalités profondes. Cette conversation mondiale.
La parole appartient moitié à celui qui l'a dit, moitié à celui qui l'écoute.
Pense-t-on à soi ou pense-t-on aux autres?
On ne connaît la santé que par la maladie.
Beaucoup de contradictions et de conflits.
Pause et réfléchir.
Bonsoir et bienvenue dans le temps du débat pour la conversation mondiale. Comme chaque vendredi, il sera question ce soir, Noël oblige, de magie. Une émission à écouter en direct sur France Culture et quand vous le souhaitez, sur l'application de Radio France. Limitation du nombre de convives de la France à l'Australie. Messe de Noël annulée ou avancée à Bethléem et Rome. Des chauffeurs routiers coincés sur un parking à Douvres suite à l'apparition d'une mutation du SARS-CoV-2. Pas un pays européen qui n'impose de nouvelles restrictions. Même la plage de Copacabana à Rio sera fermée aux traditionnelles festivités de fin d'année. Et quand le réveillon a lieu, interdiction de chanter, de s'embrasser, la proverbiale magie de Noël subit de plein fouet la pandémie de coronavirus, on l'a dit et répété ces derniers jours. Mais au-delà de la métaphore, on peut aussi poser la question sous l'angle de la philosophie, de l'anthropologie, pour interroger ce que le virus fait à notre rapport au réel, au rite, à la rationalité. Interroger aussi sa part de mystère. Il y a dans la pandémie que nous traversons quelque chose qui, parce que de l'ordre de l'invisible, relève bien du magique au sens plein et entier du terme. Bref, si le moins qu'on puisse dire c'est que cette année 2020 n'a pas été merveilleuse, on peut faire l'hypothèse que la magie, elle, a été omniprésente, ce qui amène nécessairement à se poser la question, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de magie ? Coronavirus, une conversation mondiale, magie, es-tu là ? La réponse avec nos deux invités ce soir, le philosophe italien Emmanuel Cocchia, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, et vous avez publié cette année un essai intitulé « Métamorphose », c'était aux éditions Rivage, et votre entretien avec Rémi Baille de l'équipe du Temps du Débat est à lire sur la page de la conversation mondiale. Il s'intitule « La magie évoque une puissance qui nous échappe ». Eh bien, on demandera évidemment à notre seconde invitée ce qu'elle en pense. Elle est au téléphone, Valentine Lossau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes magicienne, metteuse en scène et anthropologue, initiatrice du mouvement de la magie nouvelle et vous êtes également auteur associé au théâtre du Rond-Point. Alors, peut-être on va commencer ensemble, Emmanuel Cocchia, à définir un petit peu de ce dont on parle, comme je le disais, quand on parle de magie et surtout en relation avec cette épidémie. À quoi ça renvoie selon vous ? De quoi parle-t-on quand on se dit, voilà, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la magie, du magique qui se joue en ce moment ?
Alors, il y a quelque chose de absolument extraordinaire, malgré la part de tragédie que cette pandémie nous a livrée. C'est l'effet qu'elle nous a montré à quel point la presque totalité de nos habitudes, de nos mœurs, de nos modes de vie relève de l'arbitre en fait et de l'arbitraire elle nous a montré à quel point nous sommes prêts, nous sommes capables d'échanger radicalement d'un jour à l'autre, d'un instant à l'autre la presque totalité de notre mode de vie. Et c'est là, je pense, ça rappelle beaucoup à cette ce caractère de transformation instantanée dont la magie normalement se fait porteuse.
Alors justement, vous dites malgré sa dimension tragique, est-ce que ça veut dire que, et ça pourrait être un premier élément de réponse, la magie, et c'est peut-être aussi ce qui, à un moment, quand on a préparé cette émission, nous a fait un petit peu hésiter avec l'équipe du Temps du Débat, ça a une dimension morale, c'est-à-dire que dans le discours, on va avoir peut-être quelque chose d'un peu merveilleux, de positif quand on parle de magie, mais ce n'est évidemment pas que cela.
Tout à fait.
Emmanuel et Cocchia.
Tout d'abord, la magie surgit même dans les histoires qu'on raconte à nos enfants. La magie a la réponse qu'on a à disposition à chaque fois qu'on fait face un trouble, une tragédie, un problème, surtout d'ordre moral d'ailleurs. Donc au fond, c'est la juste réponse ou c'est la juste attitude peut-être d'épuiser dans les passés de notre culture, d'aller trouver ces ressources qui sont là et qui peuvent nous donner quelques aides de plus.
Valentine Lossau, sur cette dimension métaphorique de la magie qu'on utilise en général, en effet, pour sa dimension merveilleuse, positive, pour vous c'est aussi à la fois une pratique artistique et un sujet d'étude anthropologique. Comment est-ce que vous entendez cette question voilà, du rapport à la magie dans cette période particulière qui est celle de la pandémie de coronavirus ?
Oui, d'abord, les dictionnaires courants font souvent référence à des formes de magie plutôt religieuse, rituelle ou thérapeutique, mais assez rarement à la magie que je pratique moi, c'est-à-dire la magie artistique. Celle-ci est plutôt renvoyée aux entrées illusionnisme et prestidigitation. Si vous allez dans une librairie et vous demandez le rayon magie, il existe, hein, il y en a un, il est associé à l'ésotérisme. Et moi, quand je parle de magie autour de moi, j'en parle beaucoup, évidemment. Et quand j'en parle à des collègues artistes ou à des spectateurs, à des journalistes, c'est tout de suite évident que l'on parle d'art, finalement. Donc, il y a comme, c'est comme s'il y avait au départ l'illusion d'un double sens. Comme si magie était une métaphore. Ou peut-être comme si la magie artistique, c'était l'imitation d'une magie qui, elle, serait réelle. Comme s'il existait finalement une différence entre la vraie magie et la magie feinte. Or, on sait qu'il n'est rien n'est moins partagé au monde que la notion de vrai et de faux. Ce qui est réel et possible ne l'est pas forcément pour nous de la même manière qu'il l'est pour une autre société.
Alors justement, peut-être il faudra insister là-dessus au cours de cette émission. Vous avez prononcé le mot de société, c'est-à-dire le rapport à la magie selon la société dans laquelle on se trouve. Mais je voulais vous entendre, et pour entrer un petit peu directement dans le vif du sujet, Emanuele Coccia, dans l'entretien que je citais tout à l'heure que vous avez donné à Rémi Bail, qu'on peut lire sur le site de France Culture, vous affirmez « il n'y a pas qu'une seule version de la magie, il y a des magies qui ont changé de nom, que l'on appelle aujourd'hui par exemple science, et que l'on prend pour ce qu'elle fait et non pour ce qu'elle dit être. Qu'entendez-vous par là ? Parce que c'est vrai qu'on peut être un peu surpris de voir cette association entre la science et la magie, surtout à un moment où, évidemment, la science est un peu remise en cause, et enfin, peut être remise en cause dans ce qu'elle apporte. On pense évidemment au mouvement contre les vaccins ou à ce qui a pu se passer autour de l'hydroxychloroquine.
Alors, tout d'abord, il y a un constat où ce que je disais part d'un constat qui est assez trivial, c'est-à-dire on vit dans un monde qui est produit par une parole très particulière qui est les codes, qui rassemble beaucoup à la parole magique. Il s'agit d'un ensemble d'ordres qui font surgir un espace produit artificiel et qui peut changer instantanément en fonction de l'ordre de parole qu'on prononce. Il s'agit d'un code difficile à maîtriser, qui est seulement certains chamans, certains magiciens qu'on appelle les informaticiens arrivent à maîtriser, mais qui déterminent l'activation, l'animation, même des bulles de matière absolument inanimées. Notre smartphone, l'ordinateur, les microphones qu'on utilise, ce sont des objets animés par de mots qui ne relèvent pas de la même grammaire ou de la même structure du langage ordinaire. Donc effectivement, on peut constater que la pointe de la technologie et de la science contemporaine a réanimé, a réenchanté l'univers et nous a, d'une certaine manière, rendu familier avec une forme de magie qu'on n'appelle pas qu'on n'appelle pas magie, mais qui est du même ordre de ce que les anciens normalement appelaient la magie, en fait. Donc il y a tout d'abord un constat de ce type-là. Ensuite, ce que je voulais dire, ce que je pense, c'est que l'opposition entre science et magie est peut-être à nuancer, non seulement d'un point de vue historique, il faut distinguer entre ce que la science dit d'elle-même et ce que la science fait, mais au fond, d'une certaine manière, la science moderne, la science occidentale, etc., a radicalisé et a hérité, a radicalisé ce que la magie essayait d'affirmer, c'est-à-dire d'un côté cette capacité de la parole de créer un monde, et ce que Valentine disait, au fond, même dans l'art, on fait face à cette capacité cosmogonique presque de la parole, et de l'autre côté, cette capacité de la part de la matière de d'héberger une forme d'imagination qui échappe à notre cerveau ou à notre espèce, et c'est ce que la science contemporaine essaye de démontrer et a en partie déjà démontré.
Valentine Le Saut.
Emanuele Coccia, j'ai la sensation que vous parlez de l'imagination comme d'une force non humaine. Je trouve que c'est passionnant comme manière de voir les choses, et on touche aussi un aspect très important de la croyance et de la magie, qui est la question de sa performativité. C'est-à-dire finalement quand la croyance actualise son objet, finit par le rendre réel. L'exemple le plus célèbre, c'est peut-être l'effet placebo. Et son contraire, qui est aussi bien connu, l'effet nocebo. Et cet effet a un corollaire social. C'est ce que Lévi-Strauss appelait l'efficacité symbolique, c'est-à-dire qui désigne l'efficacité malgré tout de certains rituels magiques et qui est une sorte d'effet placebo structural, on pourrait dire, qui a lieu à l'échelle d'un groupe et non plus à l'échelle d'un corps ou d'un individu. Et la performativité, c'est une des bases de la magie. Même dans la magie artistique, vous savez, la célèbre formule abracadabra signifie « je crée par mes paroles ». Il y a plusieurs étymologies possibles, mais toutes ont en commun la notion de performativité, c'est-à-dire comment on rend réel quelque chose par le pouvoir de la profération.
Mais est-ce à dire, l'un et l'autre, que la magie finalement ne s'opposerait pas à la raison, ou si elle s'y oppose complètement, et en fait il faut revoir notre logiciel, Emmanuel Ecoccia ?
Il faut peut-être revoir ce qu'on appelle la raison, de fait, de fait, si on commence à parler des raisons, il faut commencer à envisager l'idée ou le fait que la raison est quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est-à-dire, au fond, la capacité de penser est quelque chose qu'on partage avec la plupart des animaux, et désormais, c'est un fait aussi avec les plantes, probablement avec les bactéries, les virus, les champignons, etc. Donc, une fois qu'on a acté que cette capacité de penser, d'imaginer est partagée par n'importe quel être vivant, du coup, c'est difficile de comprendre quelque chose, de comment dire, même d'affirmer qu'il y ait quelque chose qui est extérieur à la raison, ou qui n'est pas rationnel. Les problèmes n'est pas là, n'est pas l'extériorité à la raison. La question peut-être est différente. Donc je dirais, à chaque fois qu'on parle de quelque chose qui serait opposé à la raison, on a tout d'abord commis l'erreur de faire de la raison un attribut, une qualité qui est exclusivement humaine. Et c'est là les problèmes, ce n'est pas vrai, et ça n'a jamais été le cas.
Valentine Leceau, la rationalité, ça peut être justement croire ce qu'on voit, ou en tout cas croire ce qu'on peut démontrer. Or, la magicienne que vous êtes, c'est très bien qu'on peut aussi ne pas croire ce qu'on voit. C'est-à-dire quand on assiste notamment à un spectacle de magie, c'est devant nos yeux, et puis on n'y croit pas, même si c'est là.
Oui, tout à fait. La présence de la notion de l'invisible, elle a une valeur très différente, évidemment, en fonction des sociétés. On sait, par exemple, l'importance de la question de l'invisible dans les sociétés chamaniques. Mais dans notre société, à nous, le lien entre croire et voir, il est établi de longue date. Donc, on a cet exemple célèbre, évidemment, de Saint Thomas qui avait besoin de voir pour croire, comme si voir, c'était croire, ou comme si voir, c'était savoir, justement. Mais si l'on voit ce que l'on croit, alors effectivement, nous, les artistes magiciens, nous allons vous faire croire toutes sortes de choses, qu'on peut couper des personnes en morceaux, qu'on peut les reconstituer indemnes, qu'on peut s'envoler, qu'on peut lire dans les pensées, etc. Donc, ce n'est pas suffisant de dire que l'on croit ce que l'on voit. Et il y a aussi des choses auxquelles on croit et qu'on ne peut pas voir. Et je pense à Pierre Janet, qui a étudié la psychologie de la croyance au début du XXe siècle, et qui s'étonnait que l'on puisse croire aussi facilement à l'existence d'une bactérie, alors que personne ne peut la voir. Mais il y a aussi, à l'inverse, des choses que l'on voit et auxquelles on ne croit vraiment pas du tout. Le philosophe George Moore avait remarqué ce paradoxe linguistique, qui est tout à fait intéressant quand on parle de magie, dans la phrase « Il pleut, mais je ne crois pas qu'il pleuve ». C'est le paradoxe de Moore qui a beaucoup marqué Wittgenstein, c'est-à-dire qu'on peut à la fois constater un phénomène, il pleut, et en même temps, dans une même phrase, exprimer que l'on n'y croit pas. Et finalement, ça décrit très bien le paradoxe de la magie, et ce qu'on fait en tant que magicien, c'est-à-dire on donne à observer des choses auxquelles finalement personne ne croit.
Et là, on retrouve Emmanuel Ecoccia, la situation dans laquelle on est, ce paradoxe que vient d'énoncer Valentine Leceau. Il pleut, mais je ne crois pas qu'il pleuve. On le retrouve, voilà. Et il y a des malades, des gens qui meurent de maladie, mais je ne crois pas que cette maladie existe. Bah, il y a certaines personnes qui sont prêtes à le soutenir.
Je ne sais pas si c'est vraiment la même. Ce sont deux phénomènes du même ordre. Parce que je ne sais pas si la question, par exemple, du coronavirus soit véritablement une question des croyances. Moi, en général, je me méfie beaucoup de poser les questions sociales en termes de questions de croyances. Mais ça c'est un défaut personnel qui relève de ma formation. À la base, je suis historien des religions. Et l'idée de croyance est tellement... qui est largement employée en sociologie, en anthropologie, est tellement imbibée de présupposés chrétiens que j'ai du mal à l'utiliser comme un instrument laïque, propre et véritable.
Alors, je vais m'adresser un petit peu à l'historien des religions que vous avez été, que vous êtes peut-être encore un petit peu, Emmanuel Ecochia. Est-ce que vous diriez que, justement, les moments de crise, comme ceux dans lesquels on est en ce moment, sont particulièrement propices, justement, à être réceptifs à la magie, ou en tout cas, cette idée de magie?
Et tout à fait, mais parce que à s'écrouler ne sont pas juste ou pas tellement ou pas vraiment ou pas que les croyances, ce sont les structures sociales, ce sont les institutions qui font la société, ce sont les modes de vie. Par exemple, je reviens à ce qu'on disait au début, ce qui est étonnant dans ce que nous vivons, c'est avoir eu la preuve. Physique, sensible, du fait que la plupart de choses qu'on tenait comme inébranlables, même l'existence des villes, les faits qu'on passait la plupart du temps en dehors de nos appartements, les faits qu'on prenait souvent des avions, etc., tout ça a disparu dans l'espace de 24 heures. Et ça, effectivement, au fond, c'est un changement radical physique qui n'est pas juste de l'ordre de la croyance et qui rend acceptable à l'idée qu'on puisse changer les mondes de manière instantanée. Et la magie, c'est ça au fond, d'une certaine manière. C'est cette capacité cette évidence du fait que les mondes est un artifice, est un artefact, et que donc tout dans les mondes peut changer. D'une minute à l'autre, si on trouve le bon mot, en fait.
Et oui, Valentine Lossieux, peut-être qu'une définition de la magie pourrait être une définition très large, hein, parler d'un phénomène dans lequel l'homme intervient, qui fait advenir quelque chose dont l'origine reste malgré tout invisible, cachée, incomprise. Vous seriez d'accord avec cette définition ?
Je pense que peut-être ce qui... En fait, je vais tout à fait dans le sens d'Emmanuel Ecochia sur la méfiance à l'égard de la question de la croyance quand on parle de magie, qui est tout à fait à relativiser, et notamment à relativiser à une échelle anthropologique. C'est évident que rien n'est moins partagé au monde, encore une fois, que la notion de vrai et de faux, et que donc il y a des sociétés du monde pour lesquelles, par exemple, la métamorphose animale est un phénomène réel et même tout à fait banal. Dans la société maya où je travaille, le fait de voir, par exemple, à travers les yeux d'un animal, c'est une expérience commune. Donc finalement, quel serait le point commun à tout ce que recoupe le terme de magie si on essaie de se positionner au-delà justement de la question du vrai et du faux ? Ce serait peut-être pour moi la notion de détournement du réel dans le réel. Si on le prend dans le domaine artistique, on peut détourner le réel dans une peinture, dans un espace plastique ou dans un espace symbolique en littérature ou sur un écran de cinéma par des effets spéciaux, des trucages, etc. En magie, on va le faire dans le réel même que l'on partage avec les spectateurs. Donc c'est peut-être aussi ça que traverse une personne qui effectue un rituel magique de divination ou de guérison, cette sensation de détournement de réel. Et c'est pour ça aussi que le mot de magie désigne métaphoriquement une expérience très riche ou très positive quand on a la sensation que le réel est détourné de son cours et qu'on peut dire d'une rencontre, d'un lieu, d'un souvenir qu'il est magique, mais comme on peut le dire aussi d'un but de football ou d'un panier de basket.
Emmanuel Ecochia.
Oui, je voulais juste au fond prolonger et radicaliser ce que Valentine vient de dire. Au fond, ce qui est important, c'est peut-être ce de faire, de cette idée que la magie serait quelque chose d'extraordinaire, d'étranger, de culturellement autre, etc. Et de comprendre que c'est quelque chose de beaucoup plus trivial et quotidien et banal de ce qu'on imagine. En fait, au fond, cette capacité de se mettre dans la peau des autres ou de vivre des expériences de changement radical, etc. Au fond, c'est ce qu'on vit même quotidiennement dans ce qu'on appelle la politique. Il y avait un traité d'un de grands théoriciens de la magie de la Renaissance qui s'appelait Giordano Bruno. Les traités, c'est les De Vinculis. Et dans ce texte, Bruno, en fait, affirme que le véritable magicien ou la véritable magicienne, c'est l'homme ou la femme politique, en fait. Et c'est vrai, de fait, si on y pense, même en acceptant tout ce vocabulaire de la croyance, etc., au fond, ce qu'on appelle politique, c'est un grand théâtre magique qui fait que tout d'un coup, une personne, comment dire, normale comme Emmanuel Macron, déviant le chef de tous et de toutes, un ensemble de personnes qui se réunissent quotidiennement dans un endroit qui s'appelle Sénat, prononce des mots auxquels on s'y tient, etc. Donc, au fond, si la magie, c'est cette capacité de transformation radicale et l'acceptation du fait que le monde est un artifice et donc peut changer en suivant des mots particuliers, ben on a fait l'expérience quotidiennement à travers la politique.
France Culture, Globala Sarum, Laïc Debatem.
18h41 sur France Culture, vous écoutez Le Temps du Débat, c'est la conversation mondiale avec cette question ce soir, coronavirus, magie, es-tu là? On en discute avec le philosophe italien Emmanuele Coccia et avec la magicienne, metteuse en scène et anthropologue Valentine Losso. Valentine Losso, c'est vraiment intéressant ce que vient de dire Emmanuele Coccia sur ce rapport à la politique. Et je voulais vous entendre un petit peu plus justement sur ce qui pourrait être une forme de bataille pour le réel. Parce que c'est un peu aussi ce qu'on voit se jouer à la fois dans cette situation du coronavirus et dans la politique aujourd'hui. Les hommes, les femmes politiques se battent pour dire le réel. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi des sciences sociales qui se battent pour dire le réel. C'est vrai aussi des journalistes. Voilà. Il y a une façon de se battre pour ça et de le faire advenir peut-être aussi toujours dans ce processus un petit peu magique. Qu'en dites-vous, Valentine Losso?
La magie a toujours été, en tout cas, une certaine forme de magie est présente de longue date dans le discours collectif sur on pourrait dire, la compétition d'un discours, d'une fabrication de la notion de réalité. La magie est présente dans la recherche scientifique, la magie est présente aux côtés de la technologie, elle est présente aux côtés de l'artistique, donc c'est effectivement quelque chose qui ne s'exclut pas, ce ne sont pas des domaines qui s'excluent mutuellement et tous ont leur part de présence dans le débat sur la notion de réalité, qui est une concertation, qui est justement une conversation collective qui est constamment répétée. On a vu sur cette question beaucoup de comportements individuels dans la crise que nous traversons et qui sont de manière amusante parfois très nationalisés. Vous avez peut-être vu qu'en France, certaines personnes recommandaient de manger du roquefort pour se prémunir contre la Covid-19. Et en même temps, on pourrait dire qu'ingérer une forme de moisissure pour prévenir la réplication d'un virus, c'est très loin d'être dénué de sens en termes d'analogisme. Donc finalement, tous ces phénomènes illustrent bien que la croyance est toujours plus facile à discerner chez les autres que chez soi-même. Reconnaître cet ethnocentrisme de la croyance, c'est déjà en parler de manière un peu plus pacifiée et plus collective. Et
il y a une dimension politique, sociale, mais on pourrait dire aussi que la magie, c'est un certain rapport au vivant, à la nature, Emmanuele Coccia, parce que c'est aussi l'un de vos sujets d'études. Et on pourrait dire que ce virus, il a apparu un peu comme par magie, une potion dans laquelle serait rentrée, comme dans la composition, une chauve-souris, un pangolin qui aurait mal tourné. Est-ce que vous voyez dans ce qui se passe en ce moment aussi quelque chose qui se joue hein, dans ce rapport au vivant, à la nature?
Et je sais pas, dans le sens que ce qui s'est passé a aussi quelque chose d'absolument ordinaire. Les zoonoses ont toujours existé et existeront toujours. Et ça relève, plus que de la magie, ça relève du fait que les vivants ne cessent pas, n'ont jamais cessé de vivre l'un la vie des autres, de prendre l'un l'ADN de l'autre, des organes des autres. En fait, au fond, la maladie et les pandémies, ce sont le revers au fond de l'évolution, c'est-à-dire du fait que nous partageons tous et toutes une seule et même vie. C'est ça l'évidence qui fait que un vivant peut arriver, peut pénétrer dans notre corps et nous voler la vie. C'est que la vie ne nous appartient pas parce que nous-mêmes nous l'avons pris ou nous l'avons emprunté à d'autres vivants. Et cette dimension de communauté de vie, de partage absolu, dans le sens que on vit vraiment tous et toutes une seule et même vie, a sûrement quelque chose de magique parce que c'est le présupposé du fait que chaque vivant du coup peut intervenir, peut modifier la vie des autres et peut être du coup modifié par la vie des autres. En fait, l'un des grands présupposés de la magie, au moins en Occident, était la continuité entre toutes les choses. En fait, pour qu'il y ait de la magie, il faut que toute chose partage une seule et même nature. C'est pour cela que un mot d'un des vivants, un geste d'une des substances peut toucher quelque chose qui est même à distance, parce qu'on partage tous et toutes une même nature. Et ce qu'il y a de troublant dans cette pandémie, c'est qu'elle nous a montré...
Ça nous rappelle ça, qu'on avait peut-être un petit peu oublié, Emmanuel Ecocha.
Ça nous rappelle qu'on est tous et toutes une seule et même vie, et que cette continuité de vie... n'a pas de solution de continuité géographique ou même spécifique.
Il y a aussi dans cette pandémie, il y a eu parmi les formes d'interprétation, une interprétation d'ordre écologique, disons voilà, c'est la planète, c'est Gaïa même pour certains, qui se venge de l'activité destructrice humaine. Alors évidemment, c'était fondé sur la réalité de ce que ça veut dire, de comment le sauvage et se retrouve au cœur de la ville par la destruction et l'exploitation du vivant, Emmanuel Ecocha. Mais il y a là aussi dans cette interprétation, quelque chose qui relève presque de l'animisme.
Moi, je suis un peu méfiant par rapport à cette interprétation parce que c'est une interprétation au fond radicalement anti-écologique parce que c'est une interprétation qui continue à présenter l'humanité comme l'alpha et l'oméga de l'histoire planétaire. Au fond, quoi qu'il arrive sur Terre, c'est notre responsabilité. Et donc on continue à ne pas reconnaître aucune forme d'agentivité, d'autonomie à n'importe quel être vivant. C'est toujours de notre faute. Et c'est une forme de prolonger les narcissismes qui a un peu accompagné notre histoire, au moins en Occident, qui nous a poussé à considérer l'humanité comme la couronne de la création. Là, c'est un narcissisme négatif qui nous oblige, ou qui nous permet de continuer à contempler notre exceptionnalité dans le désastre, en fait. Donc, au fond, dire que c'est de notre faute signifie de dire on est la pire espèce au monde, donc on est méchant, mais on est vraiment plus méchant que les autres, en fait. Donc, j'y vois de plus que des évidences et plus que des raisons, des mobiles pour changer d'attitude, j'y vois vraiment le prolongement d'un amour de soi infini, qui n'arrive même pas dans les moments de détresse à lâcher prise, en fait.
Valentine Losso, vous qui, je le rappelle, êtes aussi anthropologue, outre le fait que vous soyez magicienne, êtes anthropologue et travaillez sur des civilisations d'Amérique du Sud et où on retrouve parfois cette idée aussi de lien entre la terre-mère et qui va agir sur le vivant et qui va répondre à des agressions, des attaques.
Je ne retrouve pas ça dans la société où je travaille depuis maintenant une douzaine d'années, qui est un groupe maya du Mexique. J'ai l'impression que cette interprétation, comme le disait Emmanuel Ecocha, est peut-être très très liée à notre culture et à une certaine eschatologie aussi, à une pensée selon laquelle la fin du monde pourrait arriver pour compenser les comportements humains, comme l'a très bien dit Emmanuel Ecocha. Moi, ce qui me frappe, c'est ce rapport aussi qu'on fait souvent entre la magie et les situations d'apocalypse, les situations tragiques, les situations de survie. Vous savez, je me suis rendue il y a quelques années en Haïti, avec Yann Frisch, qui est un magicien très talentueux. On est parti à la rencontre du vaudou urbain à Port-au-Prince. Et en Haïti, on a souvent dit que le vaudou avait explosé après les crises environnementales terribles dues aux tremblements de terre et aux ouragans qui ont dévasté le pays profondément et durablement. Et à la suite de ça, le vaudou, mais aussi les cultes protestants se sont multipliés là-bas. Mais je me suis toujours demandé s'il fallait vraiment y voir une causalité aussi simple que la crainte et la souffrance qui vont engendrer des pratiques aussi complexes que le vaudou. Est-ce que la crise suffit à enraciner ces pratiques de manière aussi profonde ? J'ai l'impression que l'expérience semble montrer que ça n'est pas de la détresse que naît la magie. C'est plutôt au contraire de l'émerveillement. Et je pense aussi au travail d'Emmanuel Ecocha sur la métamorphose, de l'émerveillement face à la transformation ou à la métamorphose possible de la réalité.
Alors justement, on vit en ce moment une transformation, une métamorphose, on appelle ça une mutation du virus, Emmanuel Ecocha. Comment est-ce que vous regardez, vous, comment est-ce que vous avez reçu cette information de cette transformation? Alors c'est courant, hein, évidemment, et d'ailleurs, puisque c'est un virus ARN, il a déjà muté un certain nombre de fois, je ne sais plus, le chiffre est assez important, sauf que là, voilà, ça a une incidence, et donc on en parle beaucoup, et peut-être que ça ajoute justement à cette dimension, là, cette forme de métamorphose, de transformation, de transmutation. Ça apporte un petit peu, ça ajoute à cette dimension magique dans notre rapport au virus.
Oui, même si ça normalise, parce qu'à la base, les mutations sont aussi des signes d'un virus qui attend un nombre suffisant de d'individus et qui fait que petit à petit l'épidémie va disparaître, normaliser, etc. Pour la mutation, la métamorphose, la transformation, il faut peut-être répéter ce que je disais à propos de la magie. Il faut arrêter de la considérer comme un événement exceptionnel, extraordinaire, qui nous toucherait seulement à certains moments de notre existence. Au fond, cette métamorphose est le nom propre commun de la vie. En fait, c'est quelque chose qui ne touche pas que les insectes ou les virus lorsque ils attaquent une population. C'est quelque chose dont nous sommes les enfants, par exemple. Il y a une métamorphose incroyable qu'on nomme pas comme ça, mais qui est telle, qui est la naissance, qui fait que chacun de nous est littéralement la métamorphose génétique de deux individus qui ont déjà vécu, dont on a pris les corps, les sangs, les souffles, etc., et que on essaie de métamorphoser à chaque jour. Au fond, moi, je suis la métamorphose vivant du corps et du sang de ma mère et de mon père, et c'est comme si j'étais le petit laboratoire à ciel ouvert qui essaie de faire de la vie de mes parents, qui a peut-être mal tourné, etc., quelque chose de différent. Donc, cette mutation est l'existence quotidienne de tout vivant.
Comment est-ce que cette notion de métamorphose intervient, Valentine Lozon, dans votre pratique de magicienne? Alors évidemment, une pratique en pause en ce moment, malheureusement, à cause du coronavirus, mais je crois qu'il va peut-être pouvoir reprendre, espérons-le, à la réouverture des salles. Je crois que vous avez des choses de prévues vers le mois de février. Comment est-ce que la métamorphose intervient dans votre pratique de magicienne?
La métamorphose fait partie des catégories d'effets, on va dire, qui ont été très tôt travaillées par les magiciens. Les transformations d'une personne en une autre personne, d'une personne en un objet, ce sont des éléments qui ont été questionnés artistiquement depuis très longtemps, puisqu'on a des témoignages d'effets de métamorphose qui datent de l'Antiquité grecque, et puis on en retrouve tout au long du Moyen-Âge et aujourd'hui également.
Alors vous n'avez peut-être pas dévoilé, hein, mais concrètement, chez vous, ça se passe comment?
Non, je ne peux pas vous dévoiler.
Ah, vous ne pouvez pas dévoiler. Non, je ne vous demande pas comment vous faites, hein, évidemment, je ne me permettrai pas, mais c'était pour avoir une petite idée, voilà, mais ce n'est pas grave, on va passer à autre chose. De toute façon, on arrive un peu au bout de cette conversation, et puis comme je le disais, les auditeurs que ça intéresserait pourront vous voir bientôt. On mettra les références de vos prochains spectacles, évidemment, Valentine Lozon, sur la page du Temps du Débat. Mais Emmanuel Ecocha, on arrive, je le disais, au bout de cette conversation. On a beaucoup parlé de magie, c'est vrai. Et vous avez aussi insisté sur la relation entre la magie et la science, la magie et la technique. Or, on est vraiment dans une époque, évidemment, où la technique, la technologie, le numérique sont omniprésents, mais ce sont des objets, et vous avez commencé à le dire, mais j'aimerais vous entendre un peu plus là-dessus, qui, voilà, dont on est bien obligé d'accepter qu'ils fonctionnent sans vraiment comprendre comment ils fonctionnent. Et ça, est-ce que ça n'a pas aussi une dimension un peu mystique, magique, avec nos smartphones notamment ?
Et tout à fait, mais ça a peut-être été toujours le cas. Au fond, la magie était aussi une théorie de la technologie, c'est-à-dire de la transformation artificielle, de la métamorphose artificielle du réel. Ce qui est nouveau, c'est que, de fait, on a des techniques qui arrivent à transformer radicalement notre monde d'existence. On vit souvent dans des mondes qui ont été radicalement transformés techniquement, et cette technique coïncide littéralement avec une forme de magie, c'est-à-dire un ensemble d'ordres exprimés dans son espèce de langage abracadabrant qui est l'informatique, au fond, qui sont des langages et que personne ou que seulement un très petit nombre d'individus arrivent à maîtriser, et les autres subissent de manière plus ou moins passive. Donc il y a une évidence du fait magique qui est peut-être plus facile, qui rend la magie peut-être plus facile à accepter. D'ailleurs, je voulais revenir, si je peux, à votre idée d'un combat pour la réalité que cette pandémie, ou en général la situation dans les mondes, donne à voir. C'est troublant et c'est intéressant, je pensais, parce que d'un côté, il y aurait ce qu'ils disent, oui, il y a une espèce de magie cosmique qui fait que nous sommes arrivés à modifier radicalement le monde. L'anthropocène, c'est aussi ça. On a utilisé une magie noire, en fait, qui a mal tourné, qui a mal marché. On a tout gâché. Et de l'autre, il y a des gens qui disent non, non, il n'y a pas de magie, il n'y a que de la réalité. Et il faut continuer à faire ce qu'on a fait parce que tout doit aller dans la direction. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme s'il y avait une division entre ce qui accepte, ce qui avoue qu'il y a eu de la magie, mais il faut revenir en forme de magie blanche, et les autres qui nient la magie, et donc au fond, et qui se font du coup adeptes de cette magie noire qui nous a amenés jusqu'à là, en fait.
Peut-être vous voulez réagir, Valentine Lesseux, sinon je vous entendrai bien sur la question de la nouvelle technologie aussi, mais
oui,
je vous en prie.
C'est un peu lié. La conversation entre réel, magique, technologique et scientifique, elle est établie aussi de longue date. Donc les technologies nouvelles, c'est vrai, ont tendance à actualiser les virtualités de l'imagination. Je crois que c'est Arthur C. Clarke, l'auteur de science-fiction, qui disait « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie ». Et l'histoire de la magie artistique, elle est truffée d'inventions qui cherchent à imiter soit des phénomènes spirituels, soit des technologies naissantes, soit des éléments scientifiques en cours de développement. Par exemple, Jean-Eugène Robert Houdin, en France, au moment où on commence à découvrir les pouvoirs de l'éther en médecine, a inventé une évitation qu'il présentait avec son fils, et il a choisi d'appeler ce tour la suspension éthéréenne. Il faisait croire aux spectateurs que les vapeurs d'éther pouvaient rendre un enfant aussi léger qu'un ballon, et il allait jusqu'à diffuser une odeur d'éther dans la salle pour convaincre les spectateurs. Et il a aussi présenté un tour en pleine vague des esprits frappeurs, dans lequel une boîte suspendue au plafond se mettait à frapper des coups en réponse aux questions du magicien. Et il écrit dans ses mémoires que quand la mode des esprits frappeurs est passée, il a conservé ce même tour, mais en le présentant comme une avancée dans le monde de l'électroacoustique.
Je renvoie aussi nos auditeurs à un film qui n'est pas son meilleur de Christopher Nolan, mais qui s'appelle Prestige, et dans lequel il y a cette intervention de la technique et de l'électricité dans un combat entre deux magiciens. C'est pas son meilleur, mais c'est quand même pas un mauvais film. Merci beaucoup, Emmanuelle Cochia. Merci, Valentine Lesseux, d'avoir participé à cette conversation mondiale. Le temps du débat s'est terminé. Chloé Cambrelin, Bruno Barada, Rémi Bas, Hugo Boursier, Imane Gilles et Louise André au Montédé a évidemment préparé et programmé cette émission. À la réalisation, c'était Alexandre Manzanares, et à la prise de son, Édouard Rubinstein.